Visa pour l'inconnu. Émission proposée et présentée par Michel Montbressou et Didier Dumas. Vous êtes sur CFM Radio 90.2 à Villefranche-de-Rouergue. Aujourd'hui, Visa pour l'inconnu est un inconnu qui n'en est pas un, en fait, puisqu'il s'agit de Jean-Marc Calvet, le maire de Rignac, qui va être présenté par notre ami Michel.
Oui, bonjour. Bonjour, auditeurs de CFM Radio. Nous sommes heureux d'accueillir monsieur de qualité, Jean-Marc Calvet. Il est notre invité du mois. Il n'est pas n'importe qui. Ce monsieur que nous accueillons est un homme qui a et qui continue de beaucoup travailler. Il a la charge de la présidence de l'Association des maires de l'Aveyron depuis près de 3 ans. Il est le maire de Rignac depuis 21 ans, élu depuis 45 ans. Il est président de la communauté de communes du Rignacois, entendez Anglars, Ozitz, Belcastel, Bournazel, Goutrens, Méran, Escandolière et Rignac. Il est la 6e génération de minotiers, son fils étant la 7e, minotier installé à l'entrée du bourg de Rignac. Il a cédé sa place à sa progéniture dont il est fier. Nous allons entrer dans le détail en laissant la parole à Jean-Marc Calvet, cet homme fier d'être aveyronnais, cet homme vaillant, intelligent et très abordable par quiconque. Nos sociétés humaines ont besoin de gens actifs à l'esprit créatif. Jean-Marc Calvet, entrepreneur, maire de Rignac, président de l'Association des maires de l'Aveyron, fait partie de cette catégorie de personnes remarquables par leur force de caractère et leur grande qualité. Monsieur Calvet, bonjour.
Bonjour monsieur Montbressou.
Voilà, alors c'est avec Didier Dumas que nous avons le plaisir, la charge de vous questionner. On ne va pas vous rater sur quoi que ce soit. Et on va commencer peut-être par ce qu'a été votre vie dès que l'adolescence est apparue chez vous.
Bonjour monsieur Dumas.
Bonjour monsieur Calvet.
Donc vous me posez la question de savoir ce que j'ai connu êtes... avant de faire d'être un chef d'entreprise.
Voilà.
Alors, j'ai été chef d'entreprise très jeune. J'ai démarré le 1er juin 1976, j'avais 24 ans. J'ai créé une entreprise de nutrition animale sur le site du Moulin du Bousquet à Rignac. Mais auparavant, j'avais fait quelques études, et notamment à Villefranche-de-Rouergue, où j'ai été élève au lycée Saint-Joseph, de 1967 à 1969, sans doute, où j'ai passé le bac et où j'ai connu de nombreuses personnes et j'ai gardé une profonde amitié pour certains d'entre eux qui sont, quelques années après, 50 ans après, plus de 50 ans après, toujours mes amis.
Très bien. Et elles se sont échelonnées comment, ces études ?
Après avoir passé le bac à Villefranche, je suis parti... 2 ans à l'IUT à Rodez. Je suis fait partie de la première promotion de l'IUT. Quand l'IUT s'est créé, je fais partie de cette... c'était en 69, en septembre 69, nous étions la première promotion à faire un DUT gestion des entreprises. Et donc ça s'est bien passé, ça a été 2 années qui m'ont permis de démarrer dans ma vie d'adulte. Et ensuite j'ai souhaité poursuivre mes études et je suis parti 3 ans à Toulouse, à l'Université des Sciences Sociales, où j'ai fait une licence de sciences éco, on disait comme ça à l'époque, et où j'ai appris, où j'ai étudié aussi quelque chose qui était nouveau à l'époque, qui était l'informatique. Ce qui m'a permis de passer un diplôme spécialisé en informatique. Et là aussi, je crois que j'étais dans les premières promotions de ce qui plus tard s'est appelé la MIAGE, maîtrise informatique appliquée à la gestion des entreprises.
Et qu'est-ce qui vous a amené au Moulin ?
Alors là, j'étais vacciné dans mon plus jeune âge. Je pense que je n'ai jamais imaginé faire autre chose que de reprendre l'entreprise familiale. Comme vous l'avez dit en introduction, j'étais la 6e génération et j'avais sans doute une pression familiale dont je me rendais compte ou je me rendais pas compte d'ailleurs. Mais entre mes grands-parents, mes parents et tout ça, ils n'imaginaient pas que l'aîné de la famille ne reprenne pas le moulin familial. Et donc ça s'est fait tout naturellement. Je n'ai même pendant mes études, Peut-être ça m'a fait manquer un petit peu d'ambition dans mes études, mais je n'avais pas... mon chemin était tracé.
Vous êtes quand même passé de minotier à fabricant d'aliments animaux.
Voilà,
donc, c'est quand même autre chose.
Voilà, donc quand je suis arrivé le 1er juin 1976, j'ai créé mon entreprise. J'avais peut-être un certain esprit d'indépendance, malgré le chemin qui m'était tracé. J'avais envie de montrer un petit peu de quelque chose de différent. Et j'ai créé cette entreprise qui s'est, au départ, je suis parti avec un salarié de tout ça. Et ça a continué, on s'est bien développé.
Et on en est où maintenant?
Et alors 24 ans après, je crois que c'est 24, oui, le 2 janvier 2000, j'ai cédé cette affaire au groupe RHT. Et c'était un souhait de ma part de conforter cette entreprise. Quand j'y suis resté, je devais assurer un service, entre guillemets, après-vente de 3 mois, donc je devais quitter l'entreprise en mars de 2000. Mais le RHT a su m'intéresser à l'affaire. C'est une entreprise de... très très passionnante, avec des gens de grande qualité, et je me suis retrouvé au comité de direction de Plateau Central très rapidement, je crois dès janvier 2000 ils m'ont mis là, et le directeur général de l'époque, François Huès, a souhaité m'a donné des responsabilités, et j'avais souhaité quitter le groupe 2 ou 3 ans après. Mais ils ont su m'entraîner. Et en fait, j'ai quitté le groupe RHT en tant que salarié en juin 2009.
Donc il y a déjà quelque temps.
Voilà, et entre-temps, ma motivation et mon fils arrivait. Mon fils avait fait subdeco. Alors lui aussi, sans doute, il a dû avoir la pression de ses parents, grands-parents et autres. Donc il a été condamné à faire meunier.
C'est le mot.
Je ne sais pas si c'est le mot, mais c'est un petit peu ça quand même. Il avait une voie tracée. Et on a développé la partie meunerie à partir de début 2000, quand Julien est revenu après avoir fait une école de commerce à Sophia Antipolis du côté de Nice. Et là, on a développé le moulin. Aujourd'hui, le moulin a pris une certaine dimension, 20 ans après. Et donc je suis, comme vous l'avez dit dans vos propos, particulièrement fier.
Et vous pouvez nous dire l'évolution du nombre d'employés que vous avez eu lorsque vous avez créé cette affaire.
Alors la partie nutrition animale, voilà. Quand je l'ai créée, je suis parti tout seul avec un salarié qui avait beaucoup de mérite à l'époque et qui est resté jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite. Mais le 30 juin 2009, quand j'ai quitté l'entreprise, nous étions 69. C'est un chiffre dont je me rappelle bien. Et la partie meunerie qui s'est développée à partir des années 2000, aujourd'hui, il y a 35 personnes qui collaborent à la partie meunerie.
Voilà. Donc du coup, vos enfants aujourd'hui ont repris le flambeau. Mais est-ce que vous êtes toujours dans l'entreprise ?
Alors les enfants aujourd'hui, Julien dirige la partie meunerie. Et j'ai la chance aussi d'avoir ma fille et mon gendre qui travaillent dans l'entreprise. Donc on a deux pieds pour marcher bien équilibré. On a la partie meunerie qui fonctionne bien. On a une partie production d'électricité. Et cette partie-là, c'est plutôt mon gendre qui s'en occupe, Guillaume. Et la partie meunerie, c'est mon fils, Julien. Et ma fille coordonne l'ensemble. Elle dirige, si on pourrait dire, la holding de tête qui... Et elle a bien sûr, au conseil de surveillance, il y a le père qui est toujours là. Et je suis un petit peu le président du conseil de surveillance, ce petit ensemble familial.
Avant de passer à un autre sujet...
Mais il y a toujours des projets dans l'entreprise. La preuve, c'est qu'il y a un chantier qui est peut-être achevé à ce jour et qui vous amène vers d'autres cieux, d'autres ambitions.
Alors là, le projet n'est pas achevé. C'est un projet qui a démarré il y a un an. On est aujourd'hui, Julien a créé un partenariat fort avec le groupe RHT, justement, et avec d'autres collecteurs de céréales. Et on est en train ça a démarré il y a un an par la création d'un silo, d'une nouvelle unité de production d'un nouveau moulin. Et la première chose qui a été faite, ça a été la création de silos pour faire des assemblages de farine différents. Je vous résume rapidement. Pour le moment, c'est la construction du silo à blé avec 28 silos et 3000 tonnes de stockage et surtout un système de nettoyage ultra performant. avec un trieur optique. C'est quelque chose d'assez qui n'est pas très utilisé aujourd'hui en maçonnerie, mais qui nous permet de, un petit peu comme vos grand-mères triaient les lentilles, de trier le blé avec le regard. C'est-à-dire c'est le blé qui circule sur une planche. Une espèce de table inclinée, mais à la cadence de 10 tonneurs, et ces caméras testent tous les grains un par un, et s'il y a un grain qui ne correspond pas, hop, il est éliminé du circuit.
Il est soufflé.
Voilà. Et donc, dans la continuité de ce silo à farine, silo à blé, maintenant, va démarrer la construction du moulin proprement dit. On a aujourd'hui un moulin qui écrase environ 80 tonnes par jour. Et à côté de ça, on va faire une nouvelle unité qui va écraser environ 150 tonnes jour et qui sera parallèle à la première unité. Tout ça est opérationnel dans plus d'un an, c'est-à-dire en janvier 2024.
Oh, vous nous faites saliver déjà avec tout ce que vous nous avez dit. Vous avez fait la démonstration et on le savait que vous êtes un homme d'entreprise. Et avant de connaître la suite, chers auditeurs, une petite pause musicale, pardon.
Nous sommes à l'écoute de CFM Radio dans l'émission Visa pour l'inconnu qui est animée par Didier Dumas, mon ami et moi-même Michel Mombressous. Nous recevons aujourd'hui un monsieur que nous apprécions beaucoup, monsieur Calvé, le maire de Rignac. Il n'est pas que maire de Rignac, nous l'avons déjà dit. Il est aussi le président de la communauté de communes de Rignacois. et il est depuis plusieurs années le maire des maires, ou plus précisément dit, il est président de l'Association des maires de l'Aveyron depuis près de 3 ans. Monsieur Calvé, vous nous avez parlé de votre vie de bâtisseur, d'entreprise. C'est assez impressionnant, mais c'est une belle réussite dont la continuité est assurée par votre famille. Vous en êtes fiers, il y a de quoi, et c'est tant mieux, c'est aussi grâce à vous et à eux-mêmes, bien sûr. Sinon, s'ils n'en avaient pas la capacité, vous y seriez resté peut-être là, si vous n'étiez pas content de leur qualité.
Ah non, mais j'y suis, on travaille en bonne entente, et toute la famille est mobilisée sur le sujet. Et à vrai dire, j'entends parler de l'entreprise au moins une fois par jour. Donc on a un contact permanent avec Julien, Guillaume, Marie, ma fille. Donc j'ai mon bureau encore à côté de leur bureau. Et donc j'aime bien aller prendre le café le matin. Et puis le soir, j'aime bien aussi aller les saluer en rentrant de mes activités autres.
Non mais on s'en doute, c'est une bonne chose pour vous-même et puis pour eux aussi. Alors voilà, nous allons passer à une autre partie de votre vie, puisque vous avez eu plusieurs vies, vous avez plusieurs vies. Quelle est que vous a amené la partie où vous avez été élu, pour commencer, maire de Rignac? Vous avez succédé à M. Jean Puech. Alors, dites-nous la progression de cette voie.
Disons que j'ai commencé, en fait, bien plus tôt, hein. J'ai été élu conseiller municipal de Rignac en 1977 sur la liste de Jean Puech, mais il y avait une liste commune sur Rignac, il n'y avait qu'une liste aux élections municipales de 1977. Et à vrai dire, je me suis pas beaucoup occupé de la commune de Rignac. J'étais un conseiller municipal et comme ça arrive souvent, j'avais beaucoup d'activités puisque je développais mon affaire, mon entreprise. Et je me suis retrouvé là, je participais bien sûr aux réunions du conseil municipal, j'avais quelques activités dans des différentes associations. Et est arrivé quelques années plus tard, 16 ans après, en 1993, notre maire Jean Puech a été nommé ministre. Et il m'a demandé de m'occuper un petit peu plus des affaires communales. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé être son premier adjoint en 1995, aux élections de 1995. Mais dès 93, j'avais pris quelques responsabilités au sein de la municipalité. Je suis resté son premier adjoint jusqu'en 2001. En 2001, pour différentes raisons, notamment le cumul des mandats, il ne pouvait plus être maire. Donc il a souhaité que je sois tête de liste et que je prenne la suite. Mes collègues élus, adjoints, tout ça m'ont poussé aussi. C'est là où, c'est peut-être pour ça aussi qu'en 2000, j'ai vendu mon entreprise de nutrition animale. Et je me rendais compte quand même de la tâche. Et à partir de 2001, je me suis effectivement, comme vous le dites, retrouvé maire de Rignac. Et j'ai été en même temps président de la communauté de communes. C'était quand même lié. Et donc là, j'ai été occupé. C'était quand même une occupation très importante, oui. Et qui m'a amené, je suis quelques années plus tard, toujours maire et président de la communauté de communes, mais entre-temps, il y avait des équipes qui s'étaient formées, et on n'est jamais maire tout seul, on est maire au sein d'une équipe, et j'essaye d'animer cette équipe municipale qui fait fonctionner Rignac.
D'accord. Alors, cela nous amène à parler des réalisations qui ont été les vôtres, celles de vous-même et de votre équipe.
Alors, disons que sur Rignac, en 20 ans, on vient, la semaine dernière, ou il y a quelques semaines, il y avait le départ du directeur technique de la communauté de communes du Pyrignacois, Jean-Noël Barnabé, et ça a été l'occasion de voir, il était rentré en 2009 au sein de la communauté de communes, mais ça a été l'occasion de faire le point, et dans son discours, on a fait une petite fête pour le remercier de tout ce qu'il avait pu faire sur Rignac, et ça a été l'occasion de retracer un petit peu ce parcours, et c'est vrai que sur notre commune et communauté de communes, on a eu pas mal de réalisations communes, notamment quelque chose dont on est particulièrement fier, c'est que la compétence des scolaires est au sein de la communauté de communes, et sur ces quelques années, on a refait pratiquement toutes les écoles, on a construit des écoles, ou on a rénové toutes les écoles des 8 communes de la communauté de communes.
Ah, oui.
On avait commencé par la commune d'Ozit. On avait fait une rénovation assez intéressante. On avait fait l'école de Méran aussi. Et ainsi de suite, ça a continué. Il y a eu Anglard, il y a eu Bournazel.
Et il n'y a pas eu de regroupement d'écoles.
Il n'y a jamais eu de regroupement d'écoles. On a fait un RPI entre Bournazel et une commune voisine, Équerou-Sénac, mais qui n'est pas sur notre communauté de communes. Mais il y a une école neuve à Bournazel, d'ailleurs, qui a eu un prix au niveau architectural.
C'est une bonne chose, oui.
Bournazel, l'architecture s'est soignée toujours. Grâce au château.
Voilà, le château avait certaines contraintes, ouais. Et l'école est dans la perspective. En voyant l'école, on voit aussi le château, et en voyant le château, on voit l'école. Et c'est vrai que c'est une réalisation très contemporaine, mais qui s'accorde parfaitement avec le village de Bournazel.
Alors, parmi vos activités, merci. Il y a aussi le fait que vous présidez le conseil d'administration depuis 1995 d'un EHPAD qui est un EHPAD de grande qualité. Et il y a 80 emplois. J'ai appris récemment, pour être allé dans cet EHPAD, que cette institution était particulièrement bien administrée, avec des gens de qualité. J'ai été surpris de voir le professionnalisme des personnes qui sont dans cet établissement.
Vous avez raison de souligner ça. C'est vrai qu'on a une directrice et autour de la directrice, il y a une infirmière coordonnatrice, il y a un médecin et puis il y a toute une équipe d'infirmières, d'aides-soignantes, de personnel dans son ensemble, des agents de service qui font un boulot remarquable. On a, comme vous dites, 82 résidents qui sont dans notre EHPAD. Et on essaye de... On a fait de gros investissements et je suis aussi particulièrement fier d'avoir pu réaliser ce jardin que vous avez vu, qui vous accueille quand vous rentrez dans l'EHPAD, où les résidents peuvent aller se promener quand par beau temps, et qui permet d'avoir une vie, une vraie vie, tout en étant dans un EHPAD.
Effectivement. J'étais en train de regarder mon ami Didier Dumas pour voir s'il avait une question. Il me fait signe, ce qui est rare, que
non, j'en ai, mais bien
nous pouvons continuer.
Ah, mais par exemple, on entend parler d'un projet sur Rignac après la disparition des deux établissements hôteliers. Vous avez fait table rase de cet espace avec un projet. Et peut-être avez-vous quelques mots à nous... sur le sujet.
Oui, c'est quelque chose d'assez intéressant aussi. C'est situé, comme vous le dites, au cœur de Rignac, proche de la mairie, proche de la médiathèque, proche des commerces. Et il y avait deux hôtels. Alors les hôtels, à une époque, c'était des hôtels de très bonne qualité, de très grande qualité.
Complicité. Ils étaient connus.
Et qui étaient connus, qui étaient Logis de France, qui étaient... c'était l'hôtel Delon, l'hôtel Mar. Les générations qui sont arrivées ensuite n'ont pas souhaité reprendre l'activité hôtelière. Ça a été difficile pour eux de trouver des repreneurs, comme ça arrive souvent dans nos bourgs-centres, de trouver des repreneurs pour ce genre d'activité. Et donc, on a trouvé un terrain d'entente pour reprendre ces deux hôtels qui étaient contigus. Et on a pris la décision de faire ce qui s'appelle une résidence senior. Ça a été un travail assez long. Il y a pas mal d'autorisations à obtenir, il y a des aides à obtenir, il y a des partenaires à trouver pour gérer ce genre d'établissement. Et là, on a, depuis deux mois, on a commencé les travaux. Et là, c'est parti avec une ouverture probable en 2024.
Est-ce qu'il est très proche, c'est très proche.
Ouais, c'est 14, il va y avoir 18 appartements, 14 T3, 4 T2, avec chacun des beaucoup de confort. En particulier, chacun sera équipé d'une terrasse pour les gens pourront prendre leur repas. Et comme on est en période où il y a quand même des nombreux jours, on peut prendre le repas à l'extérieur. Je pense que ce sera très intéressant pour les résidents de prendre le repas à l'extérieur. Il y a la possibilité, la possibilité d'avoir des activités au sein de cette résidence senior. Et on a quelque chose qu'on est en train de réaliser, qui est important. On a mis un chauffage par géothermie, refroidissement, climatisation par géothermie, à la fois le chauffage et la climatisation. Les forages sont faits. On a fait 9 forages qui descendent à 150 mètres. Et donc, les personnes qui seront là pourront bénéficier d'un système de chauffage et de climatisation qui ne coûtera pas trop cher, vu l'évolution du prix de l'énergie.
Oui, c'est un chauffage qui est développé un petit peu partout, oui. dans les écoles notamment, et oui. qui se construisent, par exemple à Manneville.
Oui.
Et c'est vrai que sur le plan économique, c'est quand même intéressant.
Oui, économique et de confort, c'est un très bon confort, puisqu'on a un système de circulation d'eau chaude.
À basse température.
Ah oui, c'est vrai.
On peut rester sur les problèmes d'électricité, ce que ça peut occasionner pour une commune comme Rignac. C'est l'occasion, en vous ayant d'en parler, les prix, probablement vous en avez été informé.
Oui, je suis même un acteur du système. En tant que maire, les communes sont regroupées dans un syndicat d'énergie qui s'appelle le CIEDA pour le département de l'Aveyron, et on a monté un groupement d'achat d'énergie en commun sur le département de l'Aveyron, mais on a adhéré, on s'est regroupé à plusieurs, et aujourd'hui on est 11 départements à acheter le gaz et l'électricité ensemble. Et on fait ça depuis 3 ans, et donc on bénéficie de contrats qui nous permettent d'amortir un petit peu le coût de l'électricité. Mais malgré ça, en 2023, on aura une hausse du prix de l'énergie de 47%. Alors vous avez entendu sans doute des artisans qui parlaient de hausse de l'énergie. On n'est plus avec des hausses en pourcentage, mais avec des multiples. Vous avez entendu sans doute parler que des boulangers avaient le prix d'électricité qui avait été monté, multiplié par 4. Il y en a même qui ont été le prix multiplié par 5 ou 6. On est à 400% d'augmentation. Nous, au niveau des communes, en état intérieur du groupement, en connaissant un petit peu le sujet, en prévoyant un petit peu l'avenir, en étant prudent, on a réussi à être à 47% d'augmentation sur l'année 2023. Mais malgré ça, une commune comme Rignac, commune ou communauté de communes, on va avoir une hausse d'électricité de 80 000 euros.
Où va amener cette histoire dans l'économie ?
Alors ça, c'est vraiment un problème. C'est un problème majeur pour notre économie à l'heure actuelle. Ce matin, on a entendu parler que l'Europe se préoccupait du sujet, que la France était à la pointe pour essayer de maîtriser ce problème de prix de l'énergie. Vous avez entendu parler d'industriels qui quittaient la France pour aller s'installer aux États-Unis ou ailleurs où l'électricité est meilleur marché. Donc c'est quand même un réel problème aujourd'hui, ce prix d'électricité. Et si on avait une hausse de 5, 10%, 15%, on aurait pu comprendre qu'il y avait une explication. Là, on est dans quelque chose de complètement irrationnel. Il faut que le politique reprenne la main là-dessus. Et j'ai entendu il y a très peu de temps que l'Europe allait faire en sorte de traiter le problème d'ici le mois de mars 2023. C'est une volonté politique. Quand on produit de l'énergie nucléaire, le prix n'a pas été multiplié par 10. Jusqu'à maintenant, on a bénéficié d'une prix de l'énergie nucléaire sans doute trop bon marché. Les spécialistes sont d'accord là-dessus. Mais de passer de 42 euros qui était vendu l'énergie nucléaire à 400 euros aujourd'hui, il y a quelque chose d'anormal.
Oui, ça fait multiplier par 10, c'est pas possible.
Non, voilà. Mais avant, à 42, c'était pas possible non plus. C'était bradé le prix de nucléaire. D'ailleurs, c'est pour ça que probablement on est arrivé qu'on allait laisser tomber le nucléaire.
Oui, voilà.
Dans le milieu agricole, on dit on traite la vache jusqu'au bout et puis on sait où elle finit. Voilà. et c'est un petit peu ça qu'on a fait sur le nucléaire. Là, on reprend les choses en main. On essaye je pense qu'il y a une volonté politique de réutiliser l'énergie nucléaire. C'est indispensable dans aujourd'hui dans le complexe énergétique français. Et on peut imaginer que s'il y a une volonté politique forte, on aura de l'énergie qui, peut-être on ne retrouvera pas les prix de 2019 ou de 2020, mais on n'aura pas ce prix à 400 euros le mégawatt-heure qu'on connaît aujourd'hui. On sera à des niveaux de prix beaucoup plus raisonnables et qui permettront aux artisans et à tous de fonctionner.
De toute façon, avec l'implantation nucléaire que nous avions, on n'avait pas besoin d'avoir la politique qui a été appliquée. On pouvait quand même s'occuper un petit peu mieux de ce qui avait déjà été installé par les décideurs précédents et ne pas fermer une centrale qui pouvait encore continuer.
Je suis tout à fait de cet avis, et aujourd'hui il y a eu des décisions politiques. Peut-être c'était le climat. Les gens, par nature, craignaient le nucléaire. Le mot nucléaire fait peur. Mais quand il est bien maîtrisé, je tiens à dire quand même qu'en France, il n'y avait pas eu un accident nucléaire. Il n'y a pas eu, pas y avoir eu un mort dû à l'énergie nucléaire. Par contre, je pense qu'il y a eu beaucoup de morts dans les mines de charbon. Alors, donc, on avait une énergie qui était propre, qui a un gros avantage. Elle était bon marché, elle peut être bon marché, et elle est surtout décarbonée. Et je pense qu'aujourd'hui, le problème, c'est quand même le réchauffement climatique. Et on a la chance en France d'avoir une énergie décarbonée.
On se fait une petite pause musicale. Laurent Pagny nous propose de parler de l'avenir.
C'est un faisceau d'espérance, de rêves mal définis, la reinette de ses souffrances, issue de nos premiers cris. C'est des projets de vacances dans des pays merveilleux, avec des oiseaux qui dansent dans le vert et le bleu. Tout ce qu'on n'a jamais su faire, on le fera en mille fois mieux. Des regrets à satisfaire avec la chance au milieu. On sera ce qu'on espère, on ne sera jamais vieux. On deviendra un bon père, on dira droit dans les yeux. Tout ce qu'on n'a jamais su dire, on est fait pour bâtir là. Sera juste, les bons auront le pouvoir, les gentils auront leur buste dans les allées du devoir. Plus de rixes, de querelles, plus de monuments aux morts. Les rues deviendront si belles qu'on vivra presque dehors. Les pays pourront s'unir, il sera non violent.
Vous êtes à l'écoute de CFM Radio, 90.2 sur Villefranche-Rouergue, 101.6 sur Figeac. Nous recevons un invité qui nous considère comme étant un invité de marque de par ses qualités. C'est monsieur, notre ami Jean-Marc Calvé, qui est avec nous depuis trois quarts d'heure. On est content d'être avec lui et nous allons continuer l'interview que nous avions avec lui. Voilà, l'émission c'est Visa pour l'inconnu, nous l'avons dit, et elle est animée par Michel Montbressouze et Didier Dumas. Monsieur Jean-Marc Calvé, vous êtes le maire d'une ville qui est agréable à vivre, Rignac. Elle a reçu le label Petite Ville demain par l'État. Alors dites-nous ce que ça veut dire.
Petite Ville de demain, c'était un... Il fallait faire un acte de candidature. Donc, le projet nous a paru intéressant. Ça a été lancé par... il y a deux ou trois ans, j'ai pas la date exacte. C'était dans le cadre de la relance du territoire. Donc, nous avons été retenus. Et on en apprécie... tous les jours, l'intérêt pour une commune comme Rignac. On a été labellisé Petite Ville de demain et on a souhaité que ce label intègre l'ensemble de la communauté de communes, et notamment le village de Belcastel, plus beau village de France, et le village de Bournazel, la commune de Bournazel, avec son magnifique château Renaissance, et également la commune de Gautrain, notamment autour de Cassagne-Conto et de son vignoble. C'est le vignoble de Marcillac, et il y a un point de vue extraordinaire. Ah, oui. Alors tout ça a été... à bénéficier du label Petite Ville de Demain. Alors l'intérêt direct pour nous, c'est qu'on a pu embaucher ce qui s'appelle un chef de projet, et que ce chef de projet est financé par l'État et par la Banque des Territoires à hauteur de 75%. C'est-à-dire qu'il reste un solde à payer pour la commune de 25%. Une commune comme Rignac, on aurait eu peut-être du mal à absorber ce genre d'investissement, mais c'est un véritable investissement dans une personne de qualité. Alors on a eu la chance de trouver un jeune qui habite sur le territoire, qui était déjà dans le développement de projets, et qui nous a rejoint, et qui, avec toute l'équipe municipale et intercommunale qu'il y a sur Rignac, et tous les élus, fait un boulot exceptionnel, et nous avons fait ensemble ce qui s'appelle le projet de territoire. Et je dois vous dire que nous avons signé cet accord cadre avec l'État et avec le préfet, avec les différents intervenants, et ça donne des perspectives très intéressantes à nos communes. Nous avons travaillé par exemple sur les différents projets que nous devons mener sur les 5 ou 6 ans qui viennent. Et concrètement, il y en a un, c'est on va faire un centre de loisirs. On avait sur Rignac, il y a beaucoup de jeunes. C'est la caractéristique de nos territoires, où il y a beaucoup de jeunes dans les écoles, des écoles primaires. Et nous avions besoin d'un centre de loisirs. Aujourd'hui, c'était dans les 2 écoles de la commune de Rignac, l'école publique et l'école privée, et ça pose des problèmes d'animation. Donc on a décidé, dans le cadre de ce projet de territoire, de regrouper ces enfants, de s'occuper de ces enfants, de 3 à 11 ans, et ce sera dans le centre de loisirs. Et nous, au terme d'une réflexion qui a duré 2 ans, on a déposé, il y a quelques semaines, les plans de ce centre de loisirs qui va se situer en plein cœur de Rignac également, à côté de la salle des fêtes, dans le cadre de l'espace André Jarlan.
Mais écoutez, ce que vous nous dites est très encourageant, c'est très prometteur, et ça répond aux questions des gens qui se disent « mais que font les politiques ?» À vous entendre, la question est donnée, la réponse est donnée. Voilà, donc si on reprend, on dit que Rignac est labellisé Petite Ville de Demain par l'État, Bourg-Centre par la région, Terre de jeu 2024 pour les Jeux Olympiques, et puis Rignac, pour en terminer dans ce domaine, bénéficie entre autres d'une crèche, d'une belle médiathèque mutualisée avec l'Office de Tourisme. Alors dites-nous un petit peu plus de ce que vous avez...
Voilà, on a beaucoup de choses sur Rignac. On essaye de rendre que la vie dans nos villages, dans nos communes, soit agréable, que les gens y trouvent tout ce dont ils ont besoin pour y passer, pour s'y sentir bien. Et la médiathèque fait partie de ça, de ces activités. Elle fonctionne. Alors, on a un nombre d'heures d'ouverture de la médiathèque qui est très important. On est ouvert du lundi au samedi. Alors, le fait de l'avoir mutualisé avec l'Office du Tourisme nous permet cette amplitude horaire très importante. Nous avons, c'est sur la place là aussi, c'est juste en face de la mairie. C'est un très beau bâtiment, avec beaucoup de lumière. Et donc, on y accueille à la fois les gens qui veulent des renseignements au point de vue tourisme, que ce soit pour Bournazel, Belcastel ou autre. Et nous y accueillons aussi, nous avons des activités propres à une médiathèque. Ces jours-ci, il y avait une lecture de contes de Noël avec des animations pour les enfants. Il y a toujours une animation les mercredis, il y a toujours des animations. Et notre médiathèque est très fréquentée. On a mis des antennes de cette médiathèque dans les communes qui le souhaitent, des communes de la communauté de communes. Il y a une antenne à Bournazel, il y a une antenne à Gautrain, il y a une antenne à Méran. Et ça permet comme ça d'avoir une bonne répartition géographique et ainsi mobiliser des personnes sur tout notre petit territoire de la communauté de communes.
Et si nous parlions de l'espérance rignacoise?
C'est une très belle, une ancienne association, une jeune société qui a 80 ans,
80 ans.
On vient de fêter les 80 ans de cette vénérable institution. Et elle est très, très dynamique.
C'est réputé.
Elle est réputée. Et elle forme. C'est ce qui est extraordinaire avec l'expérience rignacoise. C'est qu'ils sont, il y a les anciens qui sont très dévoués auprès des jeunes et qui forment les jeunes à la musique, à la trompette, à la batterie, à tous les instruments avant. Et alors, ils ont fait un partenariat très intéressant avec le conservatoire départemental de musique. Et donc, il y a des échanges très fructueux entre eux. Et aujourd'hui, au niveau de cette école, il y a plus de 120 élèves qui fréquentent avec des bons professeurs de musique. Et alors, aujourd'hui, on est en réflexion. C'est notre projet pour la commune ou la communauté de communes du Pays Rignacois. Nous allons racheter une vieille grange qui est magnifique avec une très très belle charpente qui est à quelques 50 mètres de la salle des fêtes de Rignac et n'est plus utilisée en tant que grange ou étable depuis de nombreuses années. Et là, nous avons l'intention d'y faire une antenne du conservatoire de musique pour Rignac. Et un local qui sera dédié à la musique où l'espérance rignacoise aura toute sa place. Ils seront très proches de la salle des fêtes. Ils pourront aller faire des concerts à la salle des fêtes. Et c'est un projet que nous avons sur le mandat.
Quel dynamisme! Vous êtes pétri de projets, vous êtes plein de vie. Et c'est vrai que les anciens, notamment, à l'espérance rignacoise, sont des gens, je le savais, qui s'intéressent beaucoup à la jeunesse. Mmh. Et c'est comme ça que les choses perdurent.
Voilà.
C'est très bien.
Il y a une tradition.
Voilà. Monsieur Jean-Marc Calvé, on va revenir sur la politique un petit peu, puisque vous avez côtoyé notre ancien ministre, monsieur Jean Puech. Dites-nous quelque chose de Jean Puech par rapport à ce qu'a été ses mandatures, puisqu'il a quand même eu une puissance sur le plan départemental. Comment vous pouvez nous dire ce que vous en pensez, vous?
Ben, j'ai été élu avec lui sur sa liste en 77. Donc c'est une histoire qui date de quelques années. Et j'ai été son premier adjoint pendant 6 ans, de 95 à 2001. Je le fréquentais toutes les semaines quand il était ministre de l'Agriculture, c'était en 93. Il tenait à revenir passer ses week-ends à Rignac ou un week-end sur deux, suivant ses occupations. Et c'était un moment assez extraordinaire parce qu'il nous faisait partager toute sa vie de ministre. C'est long voyage. Je me rappelle de voyages où il était allé au Japon, où il était allé, où il négociait les grands accords commerciaux. Et il s'intéressait quand même à Rignac, mais il nous laissait les coups des franches et c'était très intéressant parce qu'il était autant, il avait une image de quelqu'un de très directif.
Voilà.
Autant sur Rignac, il faisait confiance à l'équipe en place et c'était quand même assez intéressant aussi d'avoir cette hauteur de vue qu'il avait et les contacts qu'il pouvait avoir au niveau ministériel ou au niveau, on a reçu beaucoup de personnalités à Rignac. Je me rappelle particulièrement de la visite de Raymond Barre, de Giscard d'Estaing, de Balladur, de Jean-Claude Gaudin. On a eu des... Ça nous a entraîné quelques manifestations, mais ça restait toujours dans les limites.
Donc, on peut dire, malgré les critiques qui peuvent être données pour toute personne qui a la responsabilité, qu'il a quand même, bien géré de son temps ce qui était en son pouvoir.
Et donc, il a amené à Rignac quelque chose où il fallait quand même du pouvoir pour le faire. On a un foyer APF, un foyer de vie APF où il y a 42 résidents. C'est sa volonté politique qui a permis de créer ça en 1989. Et il a aussi, en tant que ministre de l'Agriculture, créé quelque chose qui s'appelait à l'époque le lycée agricole, qui depuis est devenu le lycée de Rignac, et qui est quand même un établissement qui reste, et qui marque aussi le territoire. Donc ce sont deux réalisations quand même qui
sont... Il a une grande salle des fêtes aussi. Vous avez une grande salle des fêtes grâce à lui. Ah, c'est vous, là. Pardon, il est très discret, il me fait signe avec le petit doigt.
C'était un peu plus, c'était après, j'étais un petit peu plus au commandant, là.
Bon, excusez-moi, rendons à César ce qui est à César, à Jean-Marc Calvé ce qui est à Jean-Marc Calvé.
Mais surtout qu'à vous avoir entendu, vous avez fait déjà beaucoup de choses et il y a beaucoup de projets qui se dessinent.
Donc, mais on est des gens qui... Je crois que dans la vie municipale, ce qui est important, même j'en suis sûr même, c'est que ce soit un travail d'équipe. Et bon, comme j'avais quand même, vous l'avez noté, quelques activités, je pouvais pas tout faire, il faut déléguer, il faut travailler en équipe. Et je crois que mon rôle, surtout, c'était d'animer une équipe. Et aujourd'hui encore, au sein du conseil municipal ou au sein de la communauté des communes, c'est un travail d'équipe. Et je tiens à remercier publiquement, et je le faisais chaque fois, tous mes collègues élus qui font un boulot formidable à mes côtés. Ben sans eux, on fait rien. C'est vraiment une réalisation collective.
En fait, là, c'est le mot politique qui, à mes yeux, ne vous ressemble pas dans la mesure où la politique, elle donne une autre, toute autre image de l'engagement public. Et or, vous venez de le souligner, vous êtes un animateur, vous êtes quelqu'un qui a des projets qui touchaient du doigt la réalité quotidienne. Donc, quel est votre avis sur le sens politique et le regard que les citoyens ont aujourd'hui sur ce vaste monde qui, en fait, leur interdit presque d'aller voter, tellement ils sont un peu aigris de cet univers. Alors que vous en donnez une image tout à fait contraire et très positive, bien sûr.
Disons que ce que ouais, vous dites là, moi, vous fréquentez, il y a beaucoup de politiques qui sont dévoués à leur territoire. Moi, je côtoie les maires, les 285 maires du département. Ce sont des gens dévoués qui ne pensent qu'à leur commune, qui essaient de faire, de se décarcasser pour, comme je le dis tout le temps, ils sont les chefs de village, ils sont à portée de baf, mais ils essaient de faire pour le mieux. Ils ont vraiment, ils travaillent avec leur trip pour que les gens se sentent bien, pour développer leur commune, pour faire en sorte que ça se passe bien. On trouve je fréquente les 19 présidents de communautés de communes, ce sont des gens aussi remarquables, il faut arriver à animer des équipes, il y a des territoires qui sont plus faciles, des territoires qui le sont moins. Il ne faut pas oublier qu'on nous a imposé des mariages des fois contre nature, entre territoires, pour faire de nouvelles communautés de communes. Les gens qui sont à la tête, les présidents de ces communautés de communes, doivent faire preuve de beaucoup de sens d'humanité pour arriver à faire fonctionner ce genre de territoire. Donc, à ce niveau-là, qui me concerne et qui sont, que je suis président de l'association des maires et président de communautés de communes, je ne rencontre que des gens remarquables, je ne le dis pas par démagogie. Ils ont chacun leur personnalité, ils ont chacun leurs qualités et leurs défauts, comme moi j'ai mes qualités et mes défauts, mais ils sont là sur leur territoire, et je crois que globalement, tout le monde les respecte. Je vois que aujourd'hui encore, je lisais un sondage dans lequel même les jeunes veulent s'investir dans leur commune, parce qu'ils savent que c'est là que ça se passe.
Oui.
Aujourd'hui, à côté des communautés de communes, il y a les départements. Je crois que aujourd'hui, sur le département de l'Aveyron, il y a une réelle volonté de créer cet esprit aveyronnais, de développer l'Aveyron. Et le président Arnaud Viala fait partie il a l'Aveyron dans ses tripes. Il a vraiment envie de faire quelque chose de bien. Autour de lui, il a aussi des élus qui ont envie de faire quelque chose que l'Aveyron reste ce qu'il est, même se développe. Alors après, au niveau national, c'est beaucoup plus compliqué. Je ne sais pas s'il y a encore des personnalités pour fédérer les Français. Je crois que nos élus nationaux ont un mérite terrible aussi, parce qu'on est quand même compliqué, les Français, dans nos... On veut tout, on est contre le nucléaire, mais sitôt qu'on risque de diminuer d'avoir des délestages ou des coupures d'électricité, vous voyez bien de suite, c'est le grand affolement. On aime bien des fois, on chérit des causes et dont on
porte des critiques après, qui
dont on porte des critiques sur les conséquences. Les gens étaient absolument tous, enfin, il y avait une certaine frange de la population qui était contre le nucléaire, mais ils sont vraiment pour l'électricité, bon marché.
Oui.
Mais on est rassuré par vos propos, des craintes. En fait, ça transparaît dans vos mots, dans l'énergie que vous mettez pour les exprimer. Mais on a besoin d'entendre ça. C'est aussi sur une radio que vous pouvez vous exprimer. CFM est fait pour ça. Notre émission s'ouvre justement sur... Elle porte le nom d'inconnu, donc forcément, il faut aller dans quelques recoins, etc. Et votre explication est saine et on est très heureux de l'avoir entendu. En tout cas, merci pour ça. On va faire, avant de clôturer l'émission, nous allons prendre le temps d'une autre pause musicale. Chers auditeurs, c'est à vous.
J'avais planté des graines dans un potager. J'avais semé du seigle dans un champ fané. Les graines au soleil se sont vus sécher. Et le seigle de même n'a jamais poussé. C'était pas la saison, ou pas l'endroit, qui sait. Qu'importe, car au fond, j'ai essayé. J'ai fait une cabane en olivier. Le sol était de sable et ça me plaisait. Puis le toit, puis les bases se sont froissées. Étalée sur le sable, la maison cassée. C'était pas la saison, ou pas l'endroit, qui sait. Qu'importe, car au fond, j'ai essayé. On couve des projets, des ponts, des plans. On couve des couplets, des enfants. Moi j'ai gagné parfois et perdu souvent. Celui qui n'échoue pas n'est pas vivant. C'était pas la saison, ou pas l'endroit, qui sait. Qu'importe, car au fond, j'ai essayé. C'était pas la saison, non, ou pas l'endroit, qui sait. Qu'importe, car au fond. La 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 la.
Jean-Marc Calvet, vous vous dites humaniste libéral, ça veut dire quoi ?
Vaste question, pour y répondre il faudrait un certain temps, mais parce que je considère que ce qui est le plus important c'est l'homme, et tout ce qui concerne l'homme, et libéral parce que je pense qu'il faut, on le retrouve dans la devise de notre République, c'est liberté, égalité, fraternité, je crois que c'est en fait la devise de la République qui résume tout. Ce qui est important, c'est la liberté. Il faut que les hommes soient libres. Aujourd'hui, malheureusement, on connaît la guerre en Ukraine, à quelques milliers de kilomètres de chez nous. Les Ukrainiens se battent pour leur liberté. Ils se battent aussi pour notre liberté, qui pourrait être menacée par un envahisseur, on ne sait pas par qui. Mais l'égalité, c'est très important. Et je tiens beaucoup au dernier terme, qui est la fraternité. C'est quelque chose d'important que les hommes échangent entre eux. Je crois qu'on s'enrichit chaque fois qu'on échange avec d'autres et qu'on sait partager et qu'on respecte cette devise de la République qui est fondamentale pour un maire que je suis aujourd'hui.
Écoutez, Jean-Marc Calvet, nous avons pris plaisir, Didier Dumas et moi-même, à vous interviewer. Nous avons passé près d'une heure ensemble. Vous avez été très clair, très intéressant. Et je crois que les Rignacois peuvent être fiers d'avoir à leur tête M. Jean-Marc Calvet. Et nous allons dire au revoir.
Merci, M. Calvet.
Au revoir, messieurs. Merci beaucoup.
Vous êtes...
C'était Visa pour l'inconnu, émission présentée et proposée par Michel Montbressou. Vous l'avez compris, pour l'avoir écouté longuement et passionnément, notre invité Jean-Marc Calvet, maire d'Aurignac.
Bon, écoutez...